7 milliards de voisins, on est ensemble.
Tout le monde est voisin.
7 milliards de voisins, Samira Ibrahim.
7 milliards de voisins, bonjour les voisines, bonjour les voisins, bienvenue. Il se sert de ses jambes, il ne roule pas, n'a aucune protection, il respire l'air de plus en plus pollué de nos villes et c'est une espèce en voie de disparition, le piéton. Le piéton vit à travers le monde, chaque jour des aventures à haut risque et j'exagère à peine. Trottinettes, motos, vélos, marchands ambulants, trottoirs abîmés et travaux sur la chaussée ou trottoirs tout simplement confisqués, le piéton est devenu indésirable dans nos villes. C'est la question que nous vous posons. Quelle solution apporter au défi mondial de l'urbanisation? On en discute aujourd'hui avec nos invités qui sont ici et qui sont venus nous rejoindre au studio. Mais ce sont des citoyens exemplaires puisqu'ils nous ont rejoints en transport en commun. Je voulais vous saluer pour ce choix. Tout d'abord, Jean-Jacques Terrain, vous êtes architecte, professeur émérite de l'école de Versailles, vice-président de l'association La Seine n'est pas à vendre, auteur du livre Le piéton dans la ville aux éditions Parenthèse. Bonjour, bienvenue.
Bonjour, merci de m'avoir invité.
Je vous en prie, avec grand plaisir. Bertrand Goalou, vous êtes référent transport urbain à l'Agence française de développement, spécialiste transport senior à la Banque asiatique de développement et ingénieur urbaniste de l'école des ponts. Et vous connaissez très bien aussi le continent africain et ça tombe bien parce qu'aujourd'hui, nous allons nous balader entre l'Europe, l'Afrique, on va parler de tous les continents et toutes les villes, si on en a le temps. Puis tout à l'heure, nous aurons en ligne Pascal Pochet, qui est chargé de recherche du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, spécialiste des mobilités quotidiennes dans les villes d'Afrique subsaharienne, au sein du laboratoire aménagement économique, transport ou CNRS, ainsi que Gérard Foucault, président de l'association de 60 millions de piétons. Bonjour et bienvenue à tous, et vous aussi les voisins et les voisines, nous attendons vos appels et vos expériences. Vos réactions, vos commentaires, nous en avons déjà beaucoup, mais n'hésitez pas, vous pouvez nous appeler au 1 84 22 71 71 ou nous laisser vos messages sur WhatsApp. Et tout d'abord, on commence en force sur Facebook. Nous avons eu énormément de messages. Je dois dire que j'ai été quand même assez étonnée. On commence par le message de Charles qui nous écrit de Kinshasa en RDC. La population explose et pourtant, il n'y a aucun aménagement en RDC. Puis Charbel nous a écrit aussi de Cotonou au Bénin. Quand on veut pratiquer la marche comme sport, on est coupé dans son élan, particulièrement à l'heure de pointe, à cause des motocyclistes qui roulent sur les trottoirs, pourtant réservés aux piétons. Eh bien, ça existe également en dehors du Bénin et de Cotonou. J'ai même vu ça à Paris, je dois vous le dire. Joseph Clément, qui nous écrit de Ouagadougou, du Burkina Faso, il dit qu'au Burkina, marcher est synonyme de pauvreté et le piéton subit les klaxons des taximens.
7 milliards de voisins,
on existe ensemble.
Alors c'est un phénomène mondial, l'urbanisation galopante. En 2050, les villes abriteront la moitié de l'humanité. Les piétons, est-ce que ce sont les oubliés des villes contemporaines à travers le monde et les continents? Le constat, on a l'impression qu'il est le même partout. L'espace des piétons et les trottoirs se réduisent comme peau de chagrin. Est-ce que c'est un problème historique, Jean-Jacques Terrain?
Oui, c'est un problème historique. Depuis le début de la Révolution industrielle, pour ne pas remonter au néolithique, la civilisation a cherché le progrès. Le progrès égale la vitesse. La vitesse égale les diligences, les voitures, les chevaux, tout ce qui va vite. Et donc on est allé de plus en plus vite. Et aujourd'hui, c'est très très difficile de sortir de cette logique historique de progrès égale vitesse et de se dire que c'est la lenteur qui aujourd'hui est le progrès. C'est très difficile à faire comprendre aux gens qui aménagent les villes. Et pourtant, pour des tas de raisons, c'est la lenteur qui est devenue aujourd'hui le vrai progrès urbain. Parce que au niveau sanitaire, c'est beaucoup plus confortable, c'est meilleur pour la santé. Parce que la ville est faite, contrairement à ce qu'on pourrait croire, pour le piéton. et c'est elle s'est adaptée au véhicule, et donc il faut la rendre au piéton, et que c'est aussi le moyen de déplacement le moins cher, le plus économique, et qu'aménager une ville pour le piéton, ça coûte tout de même moins cher que de faire des métros, des bus et des routes pour les voitures. Donc tout ça mène vers un progrès nouveau qui est l'éloge de la lenteur et une bonne liaison entre la lenteur et la vitesse, qui reste aussi nécessaire parce que les gares sont des lieux de la vitesse, les nœuds multimodaux sont des lieux de la vitesse, et il faut qu'on réussisse à combiner la lenteur, qui est le progrès, et la vitesse, qui est un autre type de progrès. Il ne faut pas les faire lutter l'un contre l'autre.
Bertrand Goalou, les villes sont faites pour les piétons. Honnêtement, on n'y pense même plus, quoi. On l'a complètement oublié, cette histoire.
Alors, quand on voit la ville aujourd'hui, et certaines villes, oui, on a l'impression que ça a été oublié, et ça doit réellement revenir au centre de la réflexion. Donc, les villes doivent être faites pour les piétons, pour les gens, avant d'être faites pour les véhicules. Et en fait, il y a un certain nombre de préalables que j'aimerais peut-être rappeler avant de rentrer dans le vif du sujet, mais aujourd'hui, on a des difficultés de plusieurs ordres. Le premier, c'est la surreprésentation de la voiture en ville. Le deuxième, c'est l'explosion urbaine. On en a parlé en introduction. Ensuite, c'est la marche à pied qui, en fait, faut bien comprendre que c'est et ça a été rappelé par les témoignages qu'on a reçus, qui est le mode de déplacement principal dans les villes d'Afrique subsaharienne aujourd'hui, mais devrait être le mode de déplacement principal dans l'ensemble des villes. Ensuite, quand on parle de piétons...
Certaines villes, ils dépassent même les 50%.
Voilà, mais en Afrique subsaharienne, on est souvent à 70%. Si on prend l'exemple de Dakar que vous citiez tout à l'heure, la récente enquête ménage et déplacement 2015 montre que 7 déplacements sur 10 sont faits à pied. Voilà.
Et par donc, souci d'économie.
Par souci d'économie, par moyen, par contrainte souvent, parce que finalement le taux de motorisation des ménages, donc le nombre de personnes qui possèdent une voiture, reste encore très limité. Et tant mieux d'une certaine manière. Donc voilà, les gens n'ont pas vraiment le choix. Et en fait, le problème qui se pose à eux, c'est qu'il y a cette surreprésentation de la voiture. En fait, l'espace public est dominé par la voiture, physiquement, parce que ça prend de la place, physiquement aussi, parce que les infrastructures routières ont pris l'ascendant dans les aménagements qui ont été faits sur les trottoirs et les espaces dédiés aux pratiques des piétons, ou même des citoyens qui vivent en ville. Et ça pose un gros problème de sécurité routière. En fait, l'OMS, dans son dernier rapport, donc de la fin de l'année 2008, nous indique que 44% des victimes de l'insécurité routière, donc en fait des décès liés à l'insécurité routière, touchent soit des piétons, soit des cyclistes. Et donc, ça se passe en ville. Globalement, ça se passe en ville. Donc, au-delà des aspects d'organisation de la ville, d'efficacité, de qualité de vie, on a un vrai sujet, en fait, qui est lié au fait qu'on peut, en prévoyant des espaces adaptés aux piétons, on sauve aussi des vies.
Voilà. On sauve des vies, en effet. Mais j'aimerais revenir au message de Joseph Clément, qui nous a écrit du Burkina, de Ouaga, qui dit aussi que c'est synonyme de marché, c'est synonyme de pauvreté. Aussi, on voit aujourd'hui que les villes ont besoin d'afficher une certaine modernité à travers les routes, les avenues et la présence de voitures, au détriment des piétons.
Alors, c'est en train d'évoluer. Si on est à Paris aujourd'hui, en fait, aujourd'hui à Paris, on a un système de transport public qui est bien développé. On a des espaces de plus en plus conviviaux pour les piétons. Et finalement, la part modale du piéton à Paris est assez élevée. C'est de l'ordre de 45%, si j'ai bonne mémoire. Donc, en fait, à Paris aujourd'hui, alors je parle c'est caricatural, c'est très intramuros, mais en fait, quelqu'un qui vit à Paris aujourd'hui n'a pas forcément besoin d'acheter une voiture, et les mentalités évoluent, parce que posséder une voiture aujourd'hui, c'est plus
très
perçu comme...
Aussi.
C'est contraignant, ça coûte cher, et c'est pas perçu comme un élément qui démontre une réussite sociale.
Oui.
Dans la plupart des pays africains aujourd'hui, ou même dans les pays du Sud, c'est vrai que lorsqu'on commence à réussir, qu'on a la possibilité de s'acheter une voiture, on va s'acheter une voiture.
Et il y a des villes où vous ne pouvez pas survivre sans voiture aussi.
Exactement, ça dépend
la
aussi du modèle
des villes,
de développement. Des villes, et ça suppose chose aussi d'avoir des offres alternatives, c'est-à-dire est-ce que je peux faire, est-ce que je peux me rendre à mon travail à pied, est-ce que je peux accéder aux services urbains à pied, est-ce que si je veux aller un petit peu plus loin, j'ai accès à un système de transport collectif qui va être performant et puis qui va m'envoyer dans des conditions de temps et de confort acceptables là où je veux aller. Dans ces conditions-là, oui, on peut essayer de se passer de voiture. Si ces conditions ne sont pas réunies, dès qu'on a les moyens, on va acheter une voiture et on va ajouter à la congestion.
Alors, en parlant justement de difficile survie des piétons, je vous propose d'écouter le message sur WhatsApp de Ben qui nous a appelé de Niamey au Niger.
Oui, ici au Niger, les piétons ont tellement de problèmes pour traverser la route. Les véhiculés ne donnent jamais la priorité aux piétons. Et c'est bon, les piétons souffrent tellement. Parce que maintes fois, quand je veux traverser avec les à pied, je souffre avec ma famille. Quand je vais traverser à pied, j'en ai marre. Je peux faire plus de 30 à 40 minutes avant de traverser à pied.
C'est très long pour essayer de traverser. Je vous propose maintenant d'écouter le message de Wilson qui, lui, nous appelle de Port-au-Prince en Haïti. Et lui aussi a des difficultés de circuler sur les trottoirs. On l'écoute.
Dans ma ville où j'habite à Port-au-Prince, Haïti, il y a souvent des difficultés dans la rue qu'on marche parce que les rues sont un peu étroites. De ce fait, il y a une population très nombreuse. Des fois, ça nous empêche de marcher convenablement dans la rue. Et des fois, les automobiles également empruntent du trottoir pour stationner également. Ça, c'est un véritable problème dans mon pays.
Jean-Jacques Terrain, comment expliquer cette cohabitation plus que difficile, limite impossible ? Entre les piétons et les automobilistes.
Je vais vous répondre en revenant sur la notion de pauvreté. Il se fait que les pays qui ont résolu le mieux cette question de cohabitation sont des pays très riches. Le Danemark, le Canada, les Pays-Bas. Alors, on peut s'interroger, est-ce que c'est parce qu'ils sont plus intelligents que nous? Est-ce qu'ils sont plus... alors, ce sont certainement de meilleurs négociateurs, ce sont des petites villes, enfin, comparées aux grandes métropoles universelles, ce sont des gens qui sont plus mesurés. Mais c'est surtout le fait qu'ils s'y sont pris il y a 20 ou 30 ans. Ça fait 20 ou 30 ans qu'à Copenhague, qu'à Amsterdam, qu'à Rotterdam, on apprend aux gens à cohabiter sur l'espace public.
Donc il y avait déjà une projection, une stratégie.
Il y a une stratégie. On ne peut pas arriver dans une île. Alors je connais mal l'Afrique et je m'en excuse, mais je connais bien l'Asie. On ne peut pas arriver dans une ville comme Téhéran, Shanghai, Pékin et dire on va supprimer les voitures. On peut encore le faire à Paris et on pourrait parler de Paris. C'est déjà très difficile. Le débat est assez houleux. Mais il y a des villes où ce n'est pas possible. Ça nécessite du temps. Il faut éduquer. Il faut en parler aux enfants. Il faut leur apprendre à marcher.
Et il faut l'intégrer aussi dans les politiques publiques.
Il faut l'intégrer dans les politiques publiques. Il faut qu'il y ait un débat entre les usagers et les institutions. Alors évidemment, on prend toujours les mêmes exemples de pays ultra riches. La Suisse qui a créé des commissions de piétons institutionnelles qui débattent avec les villes, etc., pour modifier telle ou telle règle. Mais je crois qu'il faut rester optimiste. Il faut s'y mettre. D'accord. Il faut que des villes comme Téhéran ne peuvent pas continuer. Je parle de Téhéran parce que je devais y aller il y a deux mois et que c'est une ville que je connais qui est complètement saturé. Mais quand je dis saturé, c'est qu'on ne bouge plus dans la ville. À partir de 7h du matin, les voitures ne bougent plus. Le Caire, c'est pareil. On ne bouge plus, tout simplement.
Est-ce que justement, vous citez le Caire, la création de nouvelles capitales, la capitale administrative va désengorger un petit peu le Caire ou ce n'est pas une solution, ce n'est pas la meilleure des solutions?
Je peux pas répondre à votre question parce que je connais c'est pas le même dossier, mais la seule chose que j'ai lue, c'est que qu'il y aura 20 000 habitants dans cette nouvelle capitale. La dernière fois que je suis allé au Caire, on m'a dit au ministère qu'il y avait environ 100 000 habitants de plus au Caire par an. Donc on n'est pas du tout dans le même type de logique. On est plus dans une logique de prestige et d'administration, mais on n'est pas dans une logique de désengorger la ville du Caire. C'est pas 20 000 habitants qui vont dégorger. Il y a 20 ans, on a construit un certain nombre de villes nouvelles autour du Caire qui devaient avoir le même rôle et qui n'ont rien désengorgé du tout. Donc c'est pas... C'est pas le sujet.
Les banlieues proches. Bertrand Goalou, vous apportez le même, vous avez le même regard sur la situation où vous vous dites que qu'il y a des solutions malgré tout à apporter. Par rapport à la stratégie qui existe dans certains pays et qui n'a pas été sur laquelle on n'a pas travaillé dans d'autres.
Oui, je partage ce regard et cet enthousiasme parce que il y a des solutions et de toute façon on n'a pas le choix, faut s'attaquer à ce problème. La population urbaine est en train d'exploser. La population urbaine en Afrique va tripler entre 2010 et 2050. Donc aujourd'hui, on parle de la ville existante, mais on doit aussi parler de la ville de demain qui va se développer, parce que 2/3 des aires urbaines de 2050 en Afrique n'existent pas aujourd'hui. Donc bien sûr, il y aura de la densification sur la ville existante, mais il y aura des villes nouvelles et les villes vont s'étendre. Et donc là, je reviens sur le sujet de l'éducation et de la planification, parce qu'il faut anticiper. En fait, quand on parle du piéton, il y a plusieurs échelles. Il y a trois échelles. Il y a l'échelle de l'agglomération, l'échelle du quartier et l'échelle de la rue en elle-même. L'échelle de l'agglomération, en fait, ça va être toute la planification qui va être faite en amont. L'intégration entre le développement urbain et le développement des transports et de la mobilité. Et des choix forts. Par exemple, ces aires urbaines entières qui vont se développer dans les 30 ans à venir, si on a des plans d'urbanisme suffisamment bien pensés, qui prévoient dès le début un espace suffisant pour les piétons, les modes actifs, le transport public, et qui limite d'emblée l'usage de la voiture, qui prévoit aussi une mixité d'usage et d'occupation des sols qui fait que le besoin de déplacement est limité, qu'on a des villes peut-être plus compactes. Si l'exemple entre ville étalée et ville compacte que j'aime bien prendre, c'est Barcelone et Atlanta. Une même population, Atlanta est 20 fois plus étendue que Barcelone, et les émissions de gaz à effet de serre sont 10 fois plus importantes, tout simplement. Donc ça montre une question d'efficacité, ça montre aussi l'impact que ça a sur la planète, mais aussi on voit qu'à Barcelone, les gens vivent sans voiture, et qu'à Atlanta, sans voiture, on ne fait rien. Donc il y a des choix importants à faire. Donc là, je parle de la ville de demain, et donc tout l'intérêt d'avoir des décideurs éclairés, qui ont conscience de ces sujets et qui sachent les porter. Et aujourd'hui, évidemment, il faut regarder ce qui se passe dans les villes existantes. Donc, ce que vivent nos auditeurs qui interviennent dans l'émission, en fait, c'est vraiment leur quotidien. Donc, les questions de mobilité, de se déplacer en ville, c'est vraiment le quotidien des gens. Donc, si ces déplacements sont entravés, ça ne marche pas. Donc il y a des solutions aussi pour agir, et l'Agence française de développement et ses partenaires développent une approche, une stratégie qu'on recommande et qu'on essaie de développer avec nos bénéficiaires et nos contreparties, qui se base sur le développement des modes de transport collectif. Et je ne parle pas forcément de métro très cher, de réseau comme à Pékin ou à Singapour.
Parce que j'allais vous dire, ça coûte un certain budget.
C'est un certain budget, donc il y a des solutions à base de bus, il y a des solutions aussi qui permettent de penser une intermodalité, donc de partir de ce qui existe, de valoriser le transport artisanal et informel pour qu'il fonctionne peut-être un peu mieux. Et il y a un gros sujet qui est celui du partage de l'espace public. En fait, donc là, aujourd'hui, moi, je considère que le bien le plus précieux d'une ville qui souhaite se préparer pour les années à venir, c'est son espace public. Voilà, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, et donc toute la réflexion vise à équilibrer son usage entre les différents usagers. Et aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'une personne qui circule dans son 4x4 ait droit à beaucoup plus d'espace qu'un piéton qui essaye simplement de marcher sur le trottoir. Donc les mentalités doivent évoluer.
Vous avez été très positif, et j'ai un message très positif aussi d'Amoti qui nous écrit de Kampala en Ouganda. Il dit que sa ville, la ville de Kampala, est bien entretenue et bien construite. C'est agréable de marcher. On a des trottoirs bien aplanis. Venez nous rendre visite à Kampala. Ça aussi, c'est positif. Et je vous propose, puisque vous parliez également, Bertrand Goalou, du partage de l'espace public, qui est vraiment l'enjeu de nos villes, je vous propose de revenir peut-être en France. À Paris, le trafic est aussi très dense. C'est notamment le cas en lisière de la Goutte d'Or, un quartier situé au nord de la capitale. Là-bas, on assiste régulièrement à des conflits d'usage entre automobilistes, de roues et piétons. Depuis 2001, l'association de riverains Action Barbès milite entre autres pour un meilleur partage de la voirie. Notre reporter Inès Edel Garcia s'est rendue sur place et a rencontré Jean-Raphaël Bourges, président de l'association. On écoute.
On a une avenue de style parisien avec deux trottoirs très larges et une double voie au centre. Mais on a implanté des pistes cyclables sur les trottoirs et non sur l'emprise de la chaussée réservée aux véhicules. Et donc ça, déjà, ça crée un premier conflit, c'est-à-dire que ça réduit considérablement l'espace réservé aux piétons et on est sur un axe très passant, très commerçant, avec énormément de gens qui viennent de l'extérieur de Paris. Les pistes ne sont pas très bien matérialisées, donc il y a beaucoup de piétons qui vont emprunter, on en voit un justement devant nous qui le fait, qui empruntent la piste cyclable au détriment des cyclistes, donc qui se voient gênés dans leur progression. Ce qui fait que certains cyclistes ont tendance à aller rouler sur la chaussée réservée aux véhicules, donc à créer de nouveaux conflits d'usage.
À quoi on peut assister finalement? C'est véritablement des accidents ou plutôt des disputes entre les différents usagers?
Alors, plus que des accidents, on assiste à des énervements en premier lieu. Être piéton, ça peut être dangereux dans ses déplacements à Paris. On n'est pas souvent respecté par les véhicules, que ce soit même les vélos, qui eux aussi sont peuvent être victimes de l'incivilité des automobilistes. Mais les piétons sont d'abord les plus vulnérables et souvent un peu malmenés, on va dire, par les autres usagers.
Alors là, on arrive au niveau du carrefour de Barbès, entre le boulevard de Barbès et le boulevard de Rochechouart. En quoi ce carrefour-là est problématique pour les piétons?
On le voit ici, on est sur un aménagement encore un peu ancien, qui est souvent très dangereux pour les piétons. On a la sortie du métro qui s'ajoute et donc qui envoie un flot de piétons sur les trottoirs avec des passages piétons qui sont largement insuffisants au vu du très très grand nombre de piétons qui s'y présentent. Il y a des véritables petits bouchons au passage piéton à cause de ces aménagements-là.
Et en même temps, les piétons peuvent parfois être en tort, parfois ils traversent un peu n'importe comment les voies, parfois aussi ils sont scotchés sur leur téléphone portable, ils ont les écouteurs dans leurs oreilles et ne font pas finalement attention à leur environnement alentour.
Il est vrai que les nouvelles manières d'écouter de la musique, de communiquer, font qu'on développe beaucoup les casques sur les oreilles et pour les piétons, ça pose un problème parce qu'effectivement, on n'est plus à l'écoute de son environnement. On entend moins venir le danger, la sonnette du vélo, le klaxon de la voiture. Peut-être on est moins attentif aussi aux feux tricolores et ça entraîne des comportements qui peuvent être dangereux.
Comment faire finalement pour permettre une meilleure cohabitation des usages, un meilleur partage de la voirie?
Alors à notre sens, il y a, et c'est là-dessus qu'on travaille, c'est-à-dire qu'il y a deux volets sur cette question. Le premier, qui est certainement le plus important, c'est la question de l'aménagement, c'est-à-dire de bien penser les aménagements dans les nouvelles réalisations, c'est-à-dire avec une part plus grande aux piétons, avec des trajets mieux pensés. Jusque-là, quand on refait une voie, et c'est toujours le cas, on compte le nombre de voitures, on met des capteurs pour compter le nombre de véhicules qui vont passer en une journée, mais on ne compte pas le nombre de piétons. Voilà, par exemple, une chose qu'on aimerait voir se mettre en place, c'est-à-dire que quand on fait un diagnostic sur les déplacements sur une rue ou sur une avenue, qu'on ne compte pas que les véhicules, mais qu'on fasse le ratio avec les déplacements piétons, et aussi cyclistes évidemment, mais aussi l'autre volet, c'est la question des comportements. Donc on attend de la préfecture évidemment qu'elle fasse une répression, qu'elle sanctionne les mauvais comportements, mais il faut aussi beaucoup de pédagogie. On le parlait, il y a des nouveaux moyens de se déplacer, il y a de nouveaux comportements en ville, avec par exemple les smartphones, et les pouvoirs publics doivent agir aussi pour réapprendre à vivre avec cet environnement qui évolue, et qui évolue notamment sur la question des déplacements.
Et oui, à Paris aussi, les piétons galèrent. C'était un reportage réalisé par Inès Edel Garcia. Nous restons à Paris. Nous sommes en ligne avec Gérard Foucault. Gérard Foucault, vous êtes président de l'association de 60 millions de piétons. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous et aux auditeurs.
Gérard Foucault, est-ce que c'est un enjeu principal aujourd'hui, le fait de la cohabitation, le partage de l'espace public ?
Oui, tout à fait. D'abord, je partage ce qui vient d'être dit dans le reportage précédent. Il est vrai que nous manquons de trottoirs larges et lorsqu'il y a de nouveaux aménagements, disons résidentiels, on pense plutôt à la voiture qu'à l'élargissement des trottoirs. Il ne reste plus grand-chose pour les piétons. Pareil pour les zones pavillonnaires. On peut voir aussi dans les grandes villes, donc les trottoirs sont devenus des espaces à haut risque, hein, où les tensions, on voit beaucoup de tensions interpersonnelles, agressions verbales,
oui.
Dangers d'accidents graves. Qui se multiplient et dans l'indifférence quasi générale des pouvoirs publics. Et là, je m'adresse surtout aux maires, donc qui ont le pouvoir de police, de circulation et de stationnement. Et chacun peut le constater. Il devient périlleux de se déplacer sur les trottoirs. Hein. Aujourd'hui, ils sont envahis par toutes sortes de petits engins roulants. Hein. On parle aujourd'hui beaucoup des trottinettes, hein, des
oui.
rollers,
trottinettes électriques.
Je parle surtout en free-floating. C'est devenu un bazar pas possible. Et puis, viennent s'ajouter aussi les vélos qui roulent également sur les trottoirs, alors qu'il n'y a pas de pistes cyclables sur les trottoirs. Je regrette aussi les aménagements de pistes cyclables sur les trottoirs, qui sont très dangereuses pour également les piétons et aussi...
Qui ne sont pas assez bien délimités, c'est ce que vous voulez dire.
Voilà. D'ailleurs, il y a eu une jurisprudence au tribunal administratif de Strasbourg en 2013, hein, ça figure sur notre site internet. Bon, et le trottoir, il est devenu un véritable fourre-tout. On y trouve des automobiles qui sont stationnées sur le trottoir, donc en stationnement sauvage, mais aussi en stationnement, si vous voulez, légalisé par les maires. Ils les aménagent, deux roues sur la chaussée, deux roues sur le trottoir, matérialisé à la peinture blanche. Ce qui est totalement illégal hein, par le code de la route. D'ailleurs, nous avons donc une action au Conseil d'État. Donc,
en gros, vous dites que le trottoir n'arrête pas de rétrécir et que le piéton n'a plus la possibilité de marcher tranquillement. Et évidemment, il y a aussi les terrasses élargies, le mobilier urbain, énormément de choses. Vous, quelles sont vos actions concrètes en tant que président de l'association 60 millions de piétons? J'imagine que vous êtes très actif, Gérard Foucault, quelles sont les actions concrètes?
Oui, bon, là, nous avons mené des actions, si vous voulez, par rapport à la loi d'orientation sur les mobilités. Hein. Nous avons été reçus par le rapporteur public du titre 3 de la loi LOM. Deux députés également qui ont défendu nos positions dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale le 7 juin dernier. J'ai été reçu également avec deux autres collègues au ministère des Transports, au cabinet de Madame Borne. Et nous, ce que nous souhaitons, c'est, si vous voulez, une véritable définition du trottoir. Et c'est le trottoir, aujourd'hui, n'est pas défini dans le code de la route à l'article 110-2.
Écoutez,
nous demandons également aussi, si vous voulez, parce qu'on entend beaucoup parler actuellement d'une vitesse de 6 km/h sur les trottoirs pour certains engins. Or, chacun le sait, un piéton ne marche pas 6 km/h, mais plutôt à 4 km/h maximum. Et nous avons demandé ceci au ministère des Transports, une définition donc du trottoir et une définition aussi de la vitesse du pas, qui n'existe pas légalement aujourd'hui.
Merci infiniment, Gérard Foucault, de votre participation. J'aimerais vraiment vous entendre, Jean-Jacques Terrain et Bertrand Goalou, par rapport à ce partage de l'espace public. Vous avez entendu le reportage d'Inès et d'El Garcia. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire,
Jean-Jacques Terrain? J'ai envie de répondre sur deux registres différents. Le premier, pour... sortir un peu de ce débat qui a plutôt un caractère philosophique.
Nous sommes en France, c'est un pays développé, on n'a pas de problème.
Je suis d'accord avec Bertrand, c'est Bertrand.
Oui.
Sur le fait que l'espace public est un bien inaliénable. Hein, c'est un bien qui appartient à tout le monde. Je pense que... Pourquoi? Parce que c'est le seul endroit où on partage le regard, où on a le temps de voir l'autre. À vélo, on ne regarde pas l'autre.
Mais là, apparemment, voiture, on n'a plus le temps. Hein.
Oui, mais si, il faut le retrouver. Oui. C'est important. C'est important. Et je reviens sur la Goutte d'Or, que j'habite, pour vous dire que finalement, cette absence, cette densité de piétons, qui est due effectivement à la densité d'autres modes de circulation, notamment, mais aussi au fait qu'on n'a pas fait de diagnostic, comme l'a dit très justement l'intervenant tout à l'heure, on n'a pas fait de diagnostic sur l'usage des trottoirs. Donc le trottoir est une espèce de poubelle, ce qui fait que les gens n'ont plus la possibilité de se voir, de se parler. Le trottoir, c'est un endroit où on se parle, où on devrait se parler, se discuter, se regarder au moins. C'est le lieu de l'altérité. Et celui de l'altérité n'existe pas. Et pourquoi ? Qu'est-ce qui en découle ? Eh bien, des incivilités. Et la Goutte d'Or est le lieu parisien de l'incivilité. On dit que c'est dû à des raisons sociales, etc., que je ne vais pas discuter ici. Mais non, c'est dû au fait qu'on n'a plus de respect pour l'espace public et plus de respect pour le regard des autres.
Donc il faut repenser l'espace public, c'est ça?
Il faut faire un diagnostic, que de même qu'on fait un diagnostic des voitures, on fait un diagnostic des métros, on fait un diagnostic des avions, savoir combien d'avions il faut entre Paris et New York, et bien il faut savoir comment on doit planifier un trottoir entre Barbès et Clichy. Et la place Clichy, voilà, c'est tout. Et on ne le fait pas.
Un trottoir sur lequel les citoyens devraient être en sécurité. Et nous n'avons même pas parlé des malvoyants, des gens qui souffrent d'un certain handicap, qui sont en fauteuil roulant.
N'en parlons pas, oui.
Ça doit être très compliqué.
Bien sûr. Et ensuite, j'aurai un autre sujet, messieurs, je vais laisser la parole, revenir sur la stratégie de Barcelone, justement, en termes d'espace public.
Très bien. Bertrand Goalou. Vous, sur alors, ce partage
rapidement
de
sur
public.
Paris, et après on va peut-être élargir le
oui, après on repart en Afrique.
Aux villes africaines. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais quelqu'un, je prends l'exemple de Paris parce qu'on y est, quelqu'un qui ne serait pas venu à Paris depuis 10 ans constaterait une évolution flagrante de l'organisation de l'espace public, donc il ne faut pas le nier. On peut toujours faire mieux et tous les problèmes qui ont été cités existent, mais je crois que les consciences évoluent et que y a déjà un certain nombre d'avancées qui ont été faites dans la manière dont les gens peuvent vivre, les piétons peuvent évoluer sur les trottoirs. Alors après, je partage aussi, j'ai entendu au début de l'intervention de Jean-Jacques, vous parliez de lenteur tout à l'heure, et ça c'est particulièrement vrai en Afrique, parce que dans nos villes, les gens sont souvent pressés, il y a peu d'usages et de pratiques statiques, alors que la rue africaine est un formidable théâtre à ciel ouvert. Il se passe beaucoup de choses, il y a une effervescence, et les gens ne font pas que s'y déplacer. Donc chacun, on a des images en tête, et on sait qu'il se passe beaucoup plus de choses que ça. Donc c'est une dimension à prendre en compte lorsqu'on essaie de recomposer les rues. Et je peux illustrer ce propos par un projet qui est en cours à Lagos au Nigeria, qui bénéficie du soutien et de l'appui technique et financier de l'Agence française de développement, qui consiste à requalifier des corridors principaux de l'agglomération de Lagos. Donc là, on ne parle pas à Lagos. Lagos a développé des lignes de BRT qui ont été cofinancées par l'Agence française de développement.
De BRT.
De bus rapide transit.
Merci.
Donc voilà, excusez-moi, j'essaie de jargoniser le moins possible. Donc de bus rapide transit, et c'est quelque chose qui permet en fait d'avoir l'efficacité d'un métro haute capacité en utilisant des bus et des infrastructures de surface. Donc avec aussi une requalification des abords de la rue. Mais là, on parle des corridors structurants, il en faudrait beaucoup plus. Il y en a quelques-uns à Lagos, il en faudrait beaucoup plus. Mais sur le réseau secondaire, en fait, les autorités s'attachent à développer des rues selon le principe de la rue complète. Rue complète, ça veut dire qu'on va penser la rue de façade à façade, donc l'ensemble du domaine public, et on va avoir une réflexion...
Trottoir donc compris.
Trottoir compris, placettes, lieux pour les vendeurs. En fait, chacun... Le constat, c'est que chacun doit trouver sa place et doit pouvoir occuper l'espace. C'est des projets qui, finalement, ne sont pas beaucoup plus coûteux que de refaire de la voirie. Donc, penser une conception d'emblée avec la prise en compte du piéton, des cyclistes, des vendeurs de rue, de l'ensemble des pratiques statiques, c'est possible. Ça ne coûte pas beaucoup plus cher. Ça suppose aussi d'être un minimum volontariste par rapport à la restriction de la voiture, parce qu'effectivement, si on poursuit les tendances actuelles, on voit aussi qu'il y a beaucoup d'avenues qui n'ont même pas de trottoir. Donc là, j'ai l'impression que globalement, quels que soient les continents, les mentalités sont en train d'évoluer. Après, c'est une question de moyens, de temps pour mettre
donc
ces choses en place.
Donc encore une fois, on revient sur ce que disait Jean-Jacques Thérin, sur l'observation et puis après la mise en place d'une stratégie.
L'observation, il y a des méthodes très innovantes là-dessus. Il y a des techniques d'immersion donc où le concepteur, en fait, dans la phase développement de son design, va avoir l'obligation de prendre le temps d'aller se promener, d'être piéton lui-même à l'endroit qu'il va concevoir pour comprendre ce qui s'y passe. Mmh. Et ça, c'est des choses qu'on cherche à promouvoir parce que c'est très efficace. Une fois qu'on a compris le besoin des gens, donc pas uniquement par les enquêtes, mais en faisant des réelles observations de terrain, on comprend ce qui se passe dans ce théâtre à ciel ouvert. Après, les autorités peuvent décider sur quoi elles veulent mettre l'accent. Peut-être certaines pratiques ne sont pas adaptées à l'espace public. On pourrait imaginer ne pas vouloir avoir uniquement des vendeurs de rue sur les rues, mais avoir des marchés un peu plus organisés et de restreindre le nombre de vendeurs de rue sur des axes principaux. Mais une fois qu'on sait quelles sont les pratiques, qu'on s'est immergé, qu'on comprend,
on peut s'adapter.
Ce que fait les et gens, oui. Voilà, on peut définir et une stratégie, planifier, proposer des solutions qui sont adaptées.
Très bien, je vous propose, sans plus tarder, de retourner sur le continent africain et d'entendre l'expérience de nos auditeurs.
Oui, la RFI.
7 milliards de voisins, on est toujours à l'écoute.
Et tout de suite, nous partons au Maroc, à Casa, qui est une ville vraiment en pleine effervescence. Nous avons Tariq en ligne. Bonjour Tariq, bienvenue.
Bonjour Samira, bonjour les auditeurs de RFI, bonjour tout le monde.
Bienvenue. Dites-nous, merci. Parlez-nous de votre environnement.
Alors clairement, mon environnement est très très loin de ce que vous étiez en train de discuter, notamment sur le cas de la France. On est à des années-lumière, je vais être direct avec vous.
C'est-à-dire
direct, c'est clair, c'est chaotique. C'est, le piéton n'a pas une place, n'a pas un espace justement de circulation où il peut être en toute confiance, en toute liberté, en toute sécurité. Moi j'habite en plein centre-ville, j'habite dans le quartier du Maalif pour ceux qui connaissent. Juste derrière les Twins, à côté du quartier Gautier, Racine. Et on a dans le quartier Maalif, qui est un quartier très commerçant, et ce n'est dans le centre-ville, parce que je participe beaucoup avec Casa Mémoire, et notamment l'association dont je préside, c'est le cinéma du Morocco, les visites guidées des salles de cinéma dans le centre-ville de Casablanca. On a des rues qui sont inaccessibles. Alors, je ne vais pas parler pour les femmes enceintes, avec les chaises à roulettes ou les femmes à talons d'ailleurs, parce que c'est pareil avec le parcours du combattant pour elles.
Non mais à Paris aussi on peut pas marcher avec des talons, je vous le dis comme ça au passage.
Hein, c'est pas comparable. nous ce qui est bien, c'est qu'il y a des trous. On peut se tordre la cheville si en en regardant pas, on peut rapidement se tordre la cheville. Moi-même, c'est déjà arrivé de me tordre à 2-3 reprises en étant en basket. Il y a en fait des sorties d'immeubles avec des sorties de garage très pentues. Donc en fait, on marche et dès qu'on peut tomber dans une sorte de mini trou. Et là, c'est l'accident assuré. En poussette, c'est même pas la peine. Vaut mieux aller sur la route. Moi, je circule en vélo. En plus, je peux vous parler de mon cas. Je viens de rentrer d'Amsterdam, où là, pareil. Alors là, par contre, ça peut être un modèle extraordinaire. Vous auriez dû avoir quelqu'un d'Amsterdam, parce que pour les aveugles, pour tout le monde, c'est pensé. Mais voilà, à Casablanca, c'est très difficile de circuler.
On a bien compris, Tariq, que c'était bien compliqué à Casa.
On a les panneaux qui sont, si vous mesurez, qui mesurent 1m82. Donc, je suis à la limite de toucher le panneau à chaque fois. Si j'ai pas un panneau signalétique qui me fait face et qui m'empêche de passer, entre nous, moi ça m'est déjà arrivé de me prendre un panneau dans la tête, mais pas parce que j'étais en face du panneau, mais parce
vous
que
prenez beaucoup de risques, Tariq, hein. Vous êtes un cascadeur.
C'est une réalité. Je suis un citadin urbain et franchement c'est très compliqué. Par contre, il y a des initiatives et il y a des choses qui se font avec dans l'ancienne Médina où les citoyens, voilà, ont repris le pas là sur la zone, sur la zone piétonne, en aménageant des arbres, en mettant de la végétation. Et donc du coup, ça a donné une prise de conscience rapide qui fait que les gens...
Les citoyens se sont investis.
Se sont investis. Et voilà, moi je pense que les commerçants ont un rôle à jouer aussi. Parce que les commerçants
merci infiniment Tariq pour votre témoignage. Voilà. Merci. On a beaucoup d'auditeurs. Merci. Et nous avons tout de suite Cécile. Cécile qui nous parle de la sécurité des piétons. Bonjour Cécile, bienvenue.
Oui, bonjour. Bonjour, 7 milliards de voisins.
Ah, ça fait du bien d'entendre une femme quand même aussi, hein, parce que là, je me sentais seule.
C'est vrai, il n'y avait eu que des hommes.
Dites-nous, Cécile.
Alors, mais écoutez, moi, je voulais partager une expérience que j'ai vécue récemment. Donc, votre invité parlait tout à l'heure, en fait, d'observation terrain. Donc, moi, j'ai essayé d'observer, en fait, à Dakar, la vue des piétons. Mm-hmm. Et c'était il y a peut-être 6 semaines. J'ai refait l'expérience à Abidjan il y a 3 semaines. Et donc là, où je me suis vraiment mis à des points stratégiques, et j'ai été moi-même piéton et j'ai observé les piétons. Et ce que j'ai pu voir, en fait, c'est que du coup, j'ai l'impression, en fait, que la ville africaine d'aujourd'hui, elle n'a pas été pensée pour les piétons. Donc, on est, rien n'est fait, en fait, pour que les piétons puissent marcher et se sentir en sécurité. Mmh. Donc voilà, entre les embouteillages, entre les trottoirs qui sont encombrés par des marchands ambulants, et ça, tout le monde le sait, mais personne ne fait rien. Donc là, comme je dis, j'ai écrit un article après où je mettais en fait, rendez-nous nos trottoirs, rendez-nous nos feux tricolores. On veut pouvoir marcher en sécurité pour préserver notre capital santé. On se rend compte aujourd'hui que dans des villes comme Dakar, on n'a aucun plaisir à marcher parce que c'est un danger de tout instant. Mmh. Parce que voilà, c'est entre les caniveaux qui sont ouverts parce que du coup, il y a des gens, par manque de civisme et de citoyenneté, ont volé les couvercles en fait. Donc tout d'un coup, on marche, on se retrouve dans un trou. Oui. C'est pas pour ça qu'on commence, tord la queue, tout ça. Donc c'est vraiment des problèmes sécuritaires énormes qui sont posés, sans compter la perte de temps. On perd beaucoup de temps en étant au piéton, donc du coup, je pense que c'est un coût économique et un coût social. Et donc, finalement, ben, tout le monde y perd, en fait. C'est l'économie qui est impactée, c'est la santé des gens qui est impactée aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment de quoi se poser et de prendre le temps d'aller sur le terrain, d'observer les gens et de voir derrière, en fait, comment mettre des solutions.
D'observer pour pouvoir impulser de nouvelles stratégies, c'est ce que disaient nos invités en plateau. Merci infiniment Cécile, et j'espère vous entendre bientôt à nouveau sur notre antenne. Alors justement, puisque Cécile nous disait qu'en Afrique, les villes africaines en tout cas ne pensaient pas assez aux piétons, les villes n'étaient pas pensées pour les piétons, nous avons en ligne Pascal Pochet, chargé de recherche du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Vous êtes spécialiste des mobilités quotidiennes dans les villes d'Afrique subsaharienne au sein du laboratoire Aménagement, Économie, Transport au CNRS. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Alors, villes africaines qui oublient les piétons, c'est vrai, quelles solutions on peut apporter ?
Alors c'est vrai un peu de toutes les villes sur lesquelles on a fait des travaux de recherche et des enquêtes. Hein, la dernière c'était sur Dakar, mais il y en a eu sur Douala, Conakry. Mm-hmm. À chaque fois c'est le premier mode de transport et c'est un peu le mode qui est toujours oublié, notamment par les décideurs
Pourquoi
qui se concentrent sur les flux domicile-travail, sur les grandes liaisons. Sur l'essentiel, on est sur des villes qui ont cru très très rapidement aussi, donc c'est pas simple. Hein.
Pourquoi c'est le transport qui est oublié ? Parce que c'est vraiment, vraiment très lié à l'identité aussi africaine.
Pourquoi tout à fait, mais il faut aussi assurer les déplacements vers le centre d'affaires, mm-hmm. à la zone industrielle, etc. Il y a beaucoup de besoins à assurer en même temps. Donc,
bien sûr.
La marche à pied était un petit peu oubliée. Mm-hmm. On commence un petit peu à voir des choses en France, mais... C'est pas qu'en Afrique que la marche à pied était oubliée, hein, vous l'avez bien dit dans votre émission. Mmh. Donc clairement, il y a un chantier qui est immense. Et c'est prendre en compte en fait l'ensemble des modes de transport, et pas seulement les transports collectifs ou la voiture. Hein, donc voilà, c'est un changement de mentalité et passer vers des politiques multimodales.
Et est-ce que ce changement de mentalité est en train de s'opérer ? Pour finir sur une note quand même un peu positive. Avoir un peu d'espoir pour nos auditeurs qui nous
ont. C'est encore compliqué.
Oui.
Alors, c'est vrai qu'on voit apparaître des projets de BRT, vous savez, les bus, les grands bus en Afrique, etc., sur site propre. Si on veut qu'il y ait une bonne desserte des arrêts, il faut qu'il y ait des cheminements piétonniers qui soient efficaces autour. Donc, ça peut être un élément de réintégrer la marche à pied. Mais en fait, c'est un travail de tous les instants, hein, puisque, comme ça a été dit, il y a une concurrence d'usage très forte sur les trottoirs, les espaces publics. Donc c'est vraiment un travail de tous les jours, en fait.
Pascal,
ce que je voulais dire un petit peu sur les inconvénients, c'était sur quelque chose qui n'a pas été mentionné, c'est le risque d'agression et de vol. Pour le piéton, il est fort dans les villes africaines.
L'insécurité, oui.
Dans l'enquête qu'on avait faite avec le réseau Citras sur Dakar, il y a à peu près 70% des citadins qui ont peur de se déplacer seuls, en dehors de leur quartier, la nuit. Mmh. Et ça pose aussi la question de l'éclairage public, qui est souvent oublié, mais c'est un élément fondamental pour assurer des déplacements en sécurité dans la ville.
Merci infiniment de votre participation, Pascal Pochet. J'aimerais vraiment, puisque nous parlions tout à l'heure des incidences sur le citoyen, j'aimerais vous lire ce message de Vinke de Ouagadougou du Burkina Faso. Mon Dieu, rien que le fait d'en parler me donne des frissons. Il n'y a pas de passage piéton dans 98% des routes de la capitale de Ouaga. À cause de cette situation, je n'ose pas me rendre en ville à pied. Je préfère ma moto qui me permet d'être plus visible auprès des automobilistes et motocyclistes et plus mobile. Et surtout, je réduis mon risque de mortalité à chaque traversée. Je vais vous laisser chacun peut-être conclure et peut-être apporter une note d'espoir. Qui commence ?
Peut-être sur le changement de mentalité, je pense qu'il est en train de s'opérer. Alors la route va être très longue, mais on se rend compte, enfin à l'AFD, quand on rencontre nos contreparties, donc les services techniques des villes, les maires de nos pays d'intervention, on se rend compte qu'ils sont déjà alphabétisés sur ces sujets-là, de mobilité, de prise en compte du piéton. Mmh. Alors qu'il y a 10 ou 15 ans, on nous aurait parlé, voilà, bah on a besoin de votre appui pour reprendre des carrefours, faire des autoroutes urbaines, des choses comme ça. Donc les mentalités sont en train d'évoluer, mais ça prend du temps, parce qu'il faut aussi que les projets et les stratégies, que ce soit retranscrit dans les stratégies. Donc je pense qu'on peut être optimiste, mais la route va être très longue.
C'est pas
pour demain, mais il y a des pistes d'amélioration qui vont s'intensifier, dans les années à venir.
Merci d'être aussi clair et honnête, Bertrand Gault. Alou, Jean-Jacques Terrain, pour conclure.
Trois exemples pour montrer qu'on peut faire des choses tout de suite et pas cher. Montréal désasphalte certaines de ses rues et les plante de façon à ce que tout le monde puisse y accéder, et les voitures y compris, mais qui forcément roulent lentement. Donc ça s'appelle les ruelles vertes. Et ça se fait. Deuxième exemple, Londres organise des aménagements urbains pour dire aux gens, prenez, marchez, parce qu'on vous a aménagé un chemin dans la ville qui va plus vite que le métro. Voilà. Mais il y a le plan et on montre comment on y va. Troisième exemple, Barcelone décide, et c'est un peu plus long, de faire des super blocs, c'est-à-dire que plutôt que d'avoir un bloc, il y a 9 blocs, rejette la circulation en dehors des blocs, avec des circulations et des transports en commun, de façon à préserver les aires piétonnières au centre de ces super blocs. Alors, ça, c'est un peu plus compliqué, mais les deux autres exemples se font, et c'est pas cher. Ce ne sont pas des choses qui nécessitent des stratégies interminables.
Et bien sûr, nous avons un message à nos voisines et nos voisins. Continuez à investir l'espace public, c'est votre espace. Merci à vous pour vos analyses, témoignages. Merci d'avoir participé. Merci Jean-Jacques Terrain, Bertrand Goalou, Pascal Pochet, Gérard Foucault. Merci à tous nos éditeurs pour vos messages sur WhatsApp et sur Facebook. Et tous ceux qui nous ont appelés. Merci à l'équipe de 7 milliards de voisins. Victor Hull à la technique, Sigrid Azeroual, Elsa Olaizola et à Inès Edel Garcia pour son reportage. Demain, nous nous retrouvons pour parler des enfants précoces. Alors, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain.